Quatrième partie. Mais il ne s'agit pas seulement ici de l'insuffisance des lois pour réprimer de mauvaises mœurs en laissant subsister leurs causes. On trouvera, je le prévois, que l'esprit rempli des abus qu'engendre nécessairement le théâtre et de l'impossibilité générale de prévenir ces abus, je ne réponds pas assez précieusement à l'expédient proposé, qui est d'avoir des comédiens honnêtes gens, c'est-à-dire de les rendre tels. Au fond, cette discussion particulière n'est plus fort nécessaire. Tout ce que j'ai dit jusqu'ici des effets de la comédie, étant indépendant des mœurs des comédiens, n'en auront pas moins lieu quand ils auraient bien profité des leçons que vous nous exhortez à leur donner et qui deviendraient par nos soins des modèles de vertu. Cependant, par égard aux sentiments de ceux de mes compatriotes, qui ne voient d'autre danger dans la comédie que le mauvais exemple des comédiens, je veux bien rechercher encore si même dans leurs suppositions, l'expédient est praticable avec quelque espoir et s'il doit suffire pour les tranquilliser. En commençant par observer les faits avant de raisonner sur les causes, je vois en général que l'état de comédien est un état de licence et de mauvaise mœurs. Que les hommes y sont libres aux désordres, que les femmes y mettent une vie scandaleuse, que les uns et les autres, avares et prodigues tout à la fois, toujours accablés de dettes et toujours versant l'argent à pleine main, sont aussi peu retenus sur leurs dispositions que scrupuleux sur les moyens d'y pourvoir. Je vois encore que par tout pays, leur profession est déshonorante, que ceux qui l'exercent, excommuniés ou non, partout méprisés et qu'à Paris même, où ils ont plus de considération et une meilleure conduite que partout ailleurs, un bourgeois craindrait de fréquenter ces mêmes comédiens qu'on voit tous les jours à la table des grands. Une troisième observation, non moins importante, est que ce dédain est plus fort partout où les mœurs sont plus pures et qu'il y a des pays d'innocence et de simplicité où le métier de comédien est presque en horreur. Voilà des faits incontestables. Vous me direz qu'il n'en résulte que des préjugés, j'en conviens. Mais ces préjugés étant universels, il faut leur chercher une cause universelle. Et je ne vois pas qu'on la puisse trouver ailleurs que dans la profession même à laquelle ils se rapportent. À cela, vous répondez que les comédiens ne se rendent méprisables que parce qu'on les méprise. Mais pourquoi les eût-on méprisés s'ils n'eussent été méprisables ? Pourquoi penserait-on plus mal de leur état que des autres s'ils n'avaient rien qui l'en distinguât ? Voilà ce qu'il faudrait examiner, peut-être, avant de les justifier aux dépens du public. Je pourrais imputer ces préjugés aux déclamations des prêtres, si je ne les trouvais établis chez les Romains avant la naissance du christianisme, et non seulement courant vaguement dans l'esprit du peuple, mais autorisés par les lois expresses qui déclaraient les acteurs infâmes, leur ôtait le titre et les droits de citoyens romains, et mettait les actrices au rang des prostituées. Ici, toute autre raison manque, hors celle qui se tire de la nature de la chose. Les prêtres païens, les dévots, plus favorables que contraires à des spectacles, qui faisaient partie des jeux consacrés à la religion, n'avaient aucun intérêt à les décrier, et à les décrier pas, en effet. Cependant, on pouvait dès lors se récrier, comme vous faites, sur l'inconséquent de déshonorer des gens qu'on protège, qu'on paye, qu'on pensionne. Ce qui, à vrai dire, ne me paraît pas si étrange qu'à vous, car il est à propos quelquefois que l'État encourage et protège des professions déshonorantes, mais utiles, sans que ceux qui les exercent en doivent être plus considérés pour cela. J'ai lu quelque part que ces flétrisseurs étaient moins imposés à de vrais comédiens qu'à des histrions et farceurs qui souillaient leur jeu d'indécence et d'obscénité. Mais cette distinction est insoutenable, car les mots de comédien et d'histrion étaient parfaitement synonymes et n'avaient d'autre différence sinon que l'un était grec et l'autre étrusque. Cicéron, dans le livre de l'orateur, appelle histrion les deux plus grands acteurs que jamais eut Rome, Ésope et Roscius. Dans son plaidoyer pour ce dernier, il plaint si honnête homme d'exercer un métier si peu honnête. Loin de distinguer entre les comédiens, histrions et farceurs, ni entre les acteurs des tragédies et ceux des comédies, la loi couvre indistinctement du même opprobre tous ceux qui montent sur le théâtre. Quisquis in scenam prodierit ait praxtor, infamis est. Il est vrai seulement que cet opprobre tombait moins sur la représentation même que sur l'état où l'on en faisait métier. Puisque la jeunesse de Rome représentait publiquement à la fin des grandes pièces les Atellanes ou Exodes sans déshonneur. À cela près, on voit dans mille endroits que tous les comédiens indifféremment étaient esclaves et traités comme tels quand le public n'était pas content d'eux. Je ne sache qu'un seul peuple qui n'ait pas eu là-dessus les maximes de tous les autres, ce sont les Grecs. Il est certain que chez eux, la profession du théâtre était si peu déshonnête que la Grèce fournit des exemples d'acteurs chargés de certaines fonctions publiques, soit dans l'État, soit en ambassade. Mais on pourrait trouver aisément les raisons de cette exception. 1. La tragédie ayant été inventée chez les Grecs, aussi bien que la comédie, ils ne pouvaient jeter d'avance une impression de mépris sur un état dont on ne connaissait pas encore les effets. Et quand on commença de les connaître, l'opinion publique avait déjà pris son pli. Et 2. Comme la tragédie avait quelque chose de sacré dans son origine, d'abord ces acteurs furent plutôt regardés comme des prêtres que comme des baladins. Et 3. Tous les sujets des pièces, n'étant tirés que des antiquités nationales dont les Grecs étaient idolâtres, ils voyaient dans ces mêmes acteurs moins des gens qui jouaient des fables que des citoyens instruits qui représentaient aux yeux de leurs compatriotes l'histoire de leur pays. 4. Ce peuple enthousiaste de sa liberté jusqu'à croire que les Grecs étaient les seuls hommes libres par nature, se rappelait avec un vif sentiment de plaisir ses anciens malheurs et les crimes de ses maîtres. Ses grands tableaux l'instruisaient sans cesse, et il ne pouvait se défendre d'un peu de respect pour les organes de cette instruction. 5. La tragédie n'étant d'abord jouée que par des hommes, on ne voyait point sur leur théâtre ce mêlant scandaleux d'hommes et de femmes qui fallait l'autre autant d'écoles de mauvaises mœurs. 6. Enfin, leur spectacle n'avait rien de la mesquinerie de ceux d'aujourd'hui. Leur théâtre n'était point élevé par l'intérêt et par l'avarice. Ils n'étaient point renfermés dans d'obscures prisons. Leurs acteurs n'avaient pas besoin de mettre à contribution les spectateurs ni de compter du coin de l'œil les gens qu'ils voyaient paffer la porte pour être sûrs de leur coup soupé. Ces grands et superbes spectacles donnés sous le ciel à la face de toute une nation, n'offraient de toutes parts que des combats, des victoires, des prix, des objets capables d'inspirer aux Grecs une ardente émulation et d'échauffer leur cœur de sentiments d'honneur et de gloire. C'est au milieu de cet imposant appareil, si propre à élever et remuer l'âme, que les acteurs, animés du même zèle, partageaient, selon leur talent, les honneurs rendus aux vainqueurs des jeux, souvent aux premiers hommes de la nation. Je ne suis pas surpris que, loin de les avilir, leur métier exercé de cette manière leur donna cette fierté de courage et ce noble désintéressement qui semblait quelquefois élever l'acteur à son personnage. Avec tout cela, jamais la bonne Grèce, excepté Sparte, ne suscitait cet exemple de bonne mœurs. Et Sparte, qui ne souffrait point de théâtre, n'avait garde d'honorer ce qui s'y montre. Revenons aux Romains, qui, loin de suivre à cet égard l'exemple des Grecs, en donnèrent un tout contraire. Quand leur loi déclarait les comédiens infâmes, était-ce dans le dessein d'en déshonorer la profession? Quelle eût été l'utilité d'une disposition si cruelle? Elle ne la déshonorait point, rendait seulement authentique le déshonneur qui en est inséparable. Car jamais les bonnes lois ne changent la nature des choses, elles ne font que la suivre, et celles où la seule sont observées. Il ne s'agit donc pas de crier d'abord contre les préjugés, mais de savoir, premièrement, que ce ne sont que des préjugés. Si la profession de comédien n'est point en effet déshonorante en elle-même, car si par malheur elle l'est, nous aurons beau statuer qu'elle ne l'est pas, au lieu de la réhabiliter, nous ne ferons que nous avilir nous-mêmes. Qu'est-ce que le talent du comédien ? L'art de se contrefaire, de faire revêtir un autre caractère que le sien, de paraître différent de ce qu'on est, de se passionner de sang-froid, de dire autre chose que ce qu'on pense, aussi naturellement que si on le pensait réellement, et d'oublier enfin sa propre place à force de prendre celle d'autrui. Qu'est-ce que la profession du comédien ? Un métier par lequel il se donne en représentation pour de l'argent, se soumet à l'ignominie et aux affronts qu'on achète le droit de lui faire, et met publiquement sa personne en vente. J'adjure tout homme sincère de dire s'il ne se sent pas au fond de son âme qu'il y a dans ce trafic de soi-même quelque chose de servile et de bas. Vous autres philosophes, qui vous prétendez si fort au-dessus des préjugés, ne mourriez-vous pas tous de honte si, lâchement travestis en roi, il vous fallait aller faire aux yeux du public un rôle différent du vôtre et exposer vos majestés aux huées de la populace? Quel est donc au fond l'esprit que le comédien reçoit de son état? Un mélange de bassesse, de fausseté, de ridicule orgueil et d'indigne avilissement qui le rend propre à toutes sortes de personnages, hors le plus noble de tous, celui d'homme qui l'abandonne. Je sais que le jeu du comédien n'est pas celui d'un fourbe qui veut en imposer, qui ne prétend pas qu'on le prenne en effet pour la personne qu'il représente, ni qu'on le croit affecter des passions qu'il imite, et qu'en donnant cette imitation pour ce qu'elle est, il la rend tout à fait innocente. Aussi ne l'accusais-je pas d'être précisément un trompeur, mais de cultiver pour tout métier le talent de tromper les hommes et de s'exercer à des habitudes qui, ne pouvant être innocentes qu'au théâtre, ne servent partout ailleurs qu'à mal faire. Ces hommes si bien parés, si bien exercés au ton de la galanterie et aux accents de la passion, n'abuseront-ils jamais de cet art pour séduire de jeunes personnes ? Ces valets filous, si subtils de la langue et de la main sur la scène, dans les besoins d'un métier plus dispendieux que lucratif, n'auront-ils jamais de diffractions utiles ? Ne prendront-ils jamais la bourse d'un fils prodigue ou d'un père avare pour celle de Léandre ou d'Argan ? Partout, la tentation de mal faire augmente avec la facilité, et il faut que les comédiens soient plus vertueux que les autres hommes s'ils ne sont pas plus corrompus. L'orateur, le prédicateur, pourra-t-on me dire encore, paient de leur personne ainsi que le comédien ? La différence est très grande. Quand l'orateur se montre, c'est pour parler et non pour se donner en spectacle. Il ne représente que lui-même, il ne fait que son propre rôle, ne parle qu'en son propre nom, ne dit ou ne doit dire que ce qu'il pense. L'homme et le personnage étant le même être, il est à sa place. Il est dans le cas de tout autre citoyen qui remplit les fonctions de son état. Mais un comédien sur la scène, étalant d'autres sentiments que les siens, ne disant que ce qu'on lui fait dire, représentant souvent un être chimérique, s'anéantit, pour ainsi dire, s'annule avec fort héros. Et dans cet oubli de l'homme, s'il en reste quelque chose, c'est pour être le jouet le spectateur. Que dirais-je de ceux qui semblent avoir peur de valoir trop par eux-mêmes et se dégradent jusqu'à représenter les personnages auxquels ils seraient bien fâchés de ressembler ? C'est un grand mal, sans doute, de voir tant de scélérats dans le monde faire des rôles d'honnêtes gens. Mais y a-t-il rien de plus odieux, de plus choquant, de plus lâche qu'un honnête homme à la comédie faisant ce rôle d'un scélérat et déployant tout son talent pour faire valoir le criminel Maxime, dont lui-même est pénétré d'horreur ? Si l'on ne voit en tout ceci qu'une profession peu honnête, on doit voir encore une sourde mauvaise mœurs dans le désordre des actrices, qui force et entraîne celui des acteurs. Mais pourquoi ce désordre est-il inévitable? Ah, pourquoi? Dans tout autre temps, on n'aurait pas besoin de le demander. Mais dans ce siècle où règnent si fièrement les préjugés et l'erreur sous le nom de philosophie, les hommes, abrutis par leur vain savoir, ont fermé leur esprit à la voix de la raison et leur cœur à celle de la nature. Dans tout état, dans tout pays, dans toute condition, les deux sexes ont entre eux une liaison si forte et si naturelle que les mœurs de l'un décident toujours de celles de l'autre. Non que ces mœurs soient toujours les mêmes, mais elles ont toujours le même degré de bonté, modifié dans chaque sexe par les penchants qui lui sont propres. Les Anglaises sont douces et timides, les Anglais sont durs et féroces. D'où vient cette apparente opposition? De ce que le caractère de chaque sexe est ainsi renforcé, et que c'est aussi le caractère national de porter tout à l'extrême. À cela près, tout est semblable. Les deux sexes aiment à vivre à part. Tous deux font cas des plaidés de la table. Tous deux se rassemblent pour boire après le repas, les hommes du vin, les femmes du thé. Tous deux se livrent au jeu sans fureur et s'en font un métier plutôt qu'une passion. Tous deux ont un grand respect pour les choses honnêtes. Tous deux aiment la patrie et les lois. Tous deux honorent la foi conjugale. Et s'ils la violent, ils ne se font point à l'honneur de la violer. La paix domestique plaît à tous deux. Tous deux sont silencieux et taciturnes. Tous deux difficiles à émouvoir, tous deux emportés dans leur passion. Pour tous deux, l'amour est terrible et tragique. Ils décident du sort de leur jour. Il ne s'agit pas de moins, dit Murat, que d'y laisser la raison ou la vie. Enfin, tous deux se plaisent à la campagne, et les dames anglaises errent aussi volontiers dans leur pays solitaire qu'elles vont se montrer à Vauxhall. De ce goût commun pour la solitude naît aussi celui des lectures contemplatives et des romans dont l'Angleterre est inondée. Ainsi, tous deux, plus recueillis avec eux-mêmes, se livrent moins à des imitations frivoles, prennent mieux le goût des vrais plaisirs de la vie et songent moins à paraître heureux qu'à l'être. Je vais citer les Anglais par préférence, parce qu'ils sont, de toutes les nations du monde, celles où les mœurs des deux sexes paraissent d'abord le plus contraire. De leur rapport dans ce pays-là, nous pouvons conclure pour les autres. Toute la différence consiste en ce que la vie des femmes est un développement continuel de leurs mœurs, au lieu que celle des hommes, s'effaçant davantage dans l'uniformité des affaires, il faut attendre pour en juger, de les voir dans les plaisirs. Voulez-vous donc connaître les hommes? Étudiez les femmes. Cette maxime est générale, et jusque-là, tout le monde sera d'accord avec moi. Mais si j'ajoute qu'il n'y a point de bonne mœur pour les femmes, hors d'une vie retirée et domestique, si je dis que les paisibles soins de la famille et du ménage sont leur partage, que la dignité de leur sexe est dans sa modestie, que la honte et la pudeur sont en elle inséparables de l'honnêteté, que rechercher les regards des hommes, c'est déjà s'en laisser corrompre, et que toute femme qui se montre se déshonore, à l'instant va s'élever contre moi cette philosophie d'un jour qui naît et meurt dans le coin d'une grande ville et veut étouffer de là le cri de la nature et la voix unanime du genre humain. Préjugés populaires, me crie-t-on, petites erreurs de l'enfance, tromperies des lois et de l'éducation, la pudeur n'est rien. Elle n'est qu'une avance sur des lois sociales pour mettre à couvert les droits des pères et des époux et maintenir quelque ordre dans les familles. Pourquoi oserions-nous des besoins que nous donne la nature? Pourquoi trouverions-nous un motif de honte dans un acte aussi indifférent en soi et aussi utile dans ses effets que celui qui concourt à perpétuer l'espèce? Pourquoi les désirs étant égaux des deux parts, les démonstrations seraient-elles différentes? Pourquoi l'un des deux sexes refuserait-il plus que l'autre aux penchants qui leur sont communs? Pourquoi l'homme aurait-il sur ce point d'autres lois que les animaux? Les pourquoi, dit le Dieu, ne finiraient jamais. Mais n'est-ce pas à l'homme? C'est à son auteur qu'il les faut adresser. N'est-il pas plaisant qu'il faille dire pourquoi j'ai honte d'un sentiment naturel, si cette honte ne m'est pas moins naturelle que ce sentiment même? Autant vaudrait me demander aussi pourquoi j'ai ce sentiment. Est-ce à moi de rendre compte de ce qu'a fait la nature? Par cette manière de raisonner, ceux qui ne voient pas pourquoi l'homme est existant devraient nier qu'il existe. J'ai peur que ces grands scrutateurs des conseils de Dieu n'aient un peu légèrement pesé ses raisons. Moi qui ne me pique pas de les connaître, j'en crois voir qu'ils leur échappent. Quoi qu'ils en disent, la honte qui voile aux yeux d'autrui les plaisirs de l'amour est quelque chose. Elle est la sauvegarde commune que la nature a donnée aux deux sexes dans un état de faiblesse et d'oubli d'eux-mêmes, qui les livre à la merci du premier venu. C'est ainsi qu'elles couvrent leur sommeil des ombres de la nuit, afin que durant ce temps de ténèbres, ils soient moins exposés aux attaques les uns des autres. C'est ainsi qu'elle fait chercher à tout animal souffrant la retraite et les lieux déserts, afin qu'il souffre et meure en paix, hors des atteintes qu'il ne peut plus repousser. À l'égard de la pudeur du sexe en particulier, quelle arme plus douce eût pu donner cette même nature à celui qu'elle destinait à se défendre? Les désirs sont égaux. Qu'est-ce à dire? Y a-t-il de part et d'autre même faculté de les satisfaire? Que deviendrait l'espèce humaine si l'ordre de l'attaque et de la défense était changé? L'assaillant choisirait au hasard des temps où la victoire serait impossible. L'assailli serait laissé en paix quand il aurait besoin de se rendre et poursuivi sans relâche quand il serait trop faible pour succomber. Enfin, le pouvoir et la volonté toujours en discorde, ne laissant jamais partager les désirs, l'amour ne serait plus le soutien de la nature, il en serait le destructeur et le fléau. Si les deux sexes avaient également fait et reçu les avances, la veine importunée n'eût point été sauvée. Des feux toujours languissants dans une ennuyeuse liberté ne se fût jamais irrité. Le plus doux de tous les sentiments eût à peine effleuré le cœur humain et son objet eût été mal rempli. L'obstacle apparent qui semble éloigner cet objet est au fond ce qui le rapproche. Les voiles par la honte n'en deviennent que plus séduisants. En les gênant, la pudeur les enflamme. Ses craintes, ses détours, ses réserves, ses timides aveux, sa tendre et naïve finesse disent mieux ce qu'elle croit taire que la passion ne lui dit sans elle. C'est elle qui donne du prix aux faveurs et de la douceur au refus. Le véritable amour possède en effet ce que la seule pudeur lui dispute. Ce mélange de faiblesse et de modestie le rend plus touchant et plus tendre. Moins il obtient, plus la valeur de ce qu'il obtient en augmente, et c'est ainsi qu'il jouit à la fois de ses privations et de ses plaisirs. Pourquoi, disent-ils, ce qui n'est pas honteux à l'homme le serait-il à la femme? Pourquoi l'un des sexes ferait-il un crime de ce que l'autre se croit permis? Comme si les conséquences étaient les mêmes des deux côtés. Comme si tous les austères devoirs de la femme ne dérivaient pas de cela seul qu'un enfant doit avoir un père. Quand ces importantes considérations nous manqueraient, nous aurions toujours la même réponse à faire, et toujours elle serait sans réplique. Ainsi l'a voulu la nature. C'est un crime d'étouffer sa voix. L'homme peut être audacieux, telle est sa destination. Distinguons cette audace de l'insolence et de la brutalité, car rien ne part de sentiments plus opposés et n'a d'effet plus contraire. Je suppose l'amour innocent et libre, ne recevant de loi que de lui-même. C'est à lui seul qu'il appartient de présider à ses mystères et de former l'union des personnes ainsi que celle des cœurs. Qu'un homme insulte la pudeur du sexe et attente avec violence au charme d'un jeune objet qui n'en sait rien pour lui, sa grossièreté n'est point passionnée, elle est outrageante. Elle annonce une âme sans mœurs, sans délicatesse, incapable à la fois d'amour et d'honnêteté. Le plus grand des plaisirs est dans le cœur qui les donne. Un véritable amant ne trouverait que douleur, rage et désespoir dans la possession même de ce qu'il m'aime, de ce qu'il aime, s'il croyait n'en point être aimé. Vouloir contenter insolemment ses désirs sans l'aveu de celle qui les fait naître est l'audace d'un satyre. Celle d'un homme est de savoir les témoigner sans déplaire, de les rendre intéressants, de faire en sorte qu'on les partage, d'asservir les sentiments avant d'attaquer la personne. Ce n'est pas encore assez d'être aimé, et les désirs partagés ne donnent pas seuls le droit de les satisfaire. Il faut de plus le consentement de la volonté. Le cœur accorde en vain ce que la volonté refuse. L'honnête homme et l'amant s'en abstient, même quand il pourrait l'obtenir. Arracher ce consentement tacite, c'est user de toute la permission d'amour. Le lire dans les yeux, le voir dans les manières, malgré le refus de la bouche, c'est l'art de celui qui sait aimer. S'il achève alors d'être heureux, il est brutal, il est honnête. Il n'outrage point la pudeur, il la respecte, il la sert. Il lui laisse l'honneur de défendre encore ce qu'elle eut abandonné. Il faut bien que quelqu'un se déclare. Mais toute femme sans pudeur est capable, coupable et dépravée, parce qu'elle foule aux pieds un sentiment naturel à son sexe. Comment pourrait-on disputer la vérité de ce sentiment? Toute la terre n'entend-il pas l'éclatant témoignage? La seule comparaison des sexes suffirait pour la constater. N'est-ce pas la nature qui parle les jeunes personnes de ces traits si doux qu'un peu de honte rend plus touchant encore? N'est-ce pas elle qui met dans leurs yeux ce regard timide et tendre auquel on résiste avec tant de peine? N'est-ce pas elle qui donne à leur teint plus d'éclat et à leur peau plus de finesse, enfin qu'une modeste rougeur s'y laisse mieux apercevoir? N'est-ce pas elle qui les rend craintives afin qu'elles fuient, et faibles afin qu'elles cèdent? À quoi bon leur donner un cœur plus sensible à la pitié, moins de vitesse à la course, un corps moins robuste, une stature moins haute, des muscles plus délicats, si elle les est destinée à se laisser vaincre? Assujetties aux incommodités de la grossesse et aux douleurs de l'enfantement, ce surcroît de travail exigeait-il une diminution de force? Mais pour le réduire à cet état pénible, il les fallait assez fortes pour ne succomber qu'à leur volonté et assez faibles pour avoir toujours un prétexte de se rendre. Voilà précisément le point où les a placées la nature. Passons du raisonnement à l'expérience. Si la pudeur était un préjugé de la société et de l'éducation, ce sentiment devrait augmenter dans les lieux où l'éducation est plus poignée et où l'on raffine incessamment sur les lois sociales. Il devrait être plus faible partout où l'on est resté plus près de l'état primitif. C'est tout le contraire. Dans nos montagnes, les femmes sont timides et modestes, un mot les fait rougir, elles n'osent lever les yeux sur les hommes et gardent le silence devant eux. Dans les grandes villes, la pudeur est ignoble et basse. C'est la seule chose dont une femme bien élevée aurait honte. Et l'honneur d'avoir fait rougir un honnête homme n'appartient qu'aux femmes du meilleur air. L'argument tiré de l'exemple des bêtes ne conclut point, et n'est pas vrai. L'homme n'est point un chien ni un loup. Il ne faut qu'établir dans son espèce les premiers rapports de la société pour donner à ses sentiments une moralité toujours inconnue aux bêtes. Les animaux ont un cœur et des passions, mais la sainte image de l'honnête et du beau n'entra jamais que dans le cœur de l'homme. Malgré cela, où a-t-on pris que l'instinct ne produit jamais dans les animaux des effets semblables à ceux que la honte produit parmi les hommes? Je vois tous les jours des preuves du contraire. J'en vois se cacher dans certains besoins pour dérober au sens un objet de dégoût. Je les vois ensuite, au lieu de fuir, s'empresser d'en couvrir les vestiges. Que manque-t-il à ses soins pour avoir un air de décence et d'honnêteté, sinon d'être pris par des hommes? Dans leurs amours, je vois des caprices, des choix, des refus concertés qui tiennent de bien près à la maxime d'irriter la passion par des obstacles. À l'instant même où j'écris ceci, j'ai sous les yeux un exemple qui le confirme. Deux jeunes pigeons, dans l'heureux temps de leurs premières amours, m'offrent un tableau bien différent de la sotte brutalité que leur prêtent nos prétendus sages. La blanche colombe va suivant pas à pas son bien-aimé et prend chasse elle-même aussitôt qu'il se retourne. Reste-t-il dans l'inaction ? De légers coups de bec le réveillent. S'il se retire, on le poursuit. S'il se défend, un petit vol de 6 pas l'attire encore. L'innocent de la nature ménage les agaceries et la molle résistance avec un art qu'aurait à peine la plus habile coquette. Non, la folâtre Galatée ne faisait pas mieux, et Virgile eût pu tirer d'un colombier l'une de ses plus charmantes images. Quand on pourrait nier qu'un sentiment particulier de pudeur fût naturel aux femmes, en serait-il moins vrai que dans la société, leur partage doit être une vie domestique et retirée, et qu'on doit les élever dans des principes qui s'y rapportent? Si la timidité, la pudeur, la modestie qui leur sont propres sont des inventions sociales, il importe à la société que les femmes acquièrent ces qualités. Il importe de les cultiver en elles, et toute femme qui les dédaigne offense les bonnes mœurs. Y a-t-il au monde un spectacle aussi touchant, aussi respectable, que celui d'une mère de famille entourée de ses enfants, réglant les travaux de ses domestiques, procurant à son mari une vie heureuse et gouvernant sagement la maison? C'est là qu'elle se montre dans toute la dignité d'une honnête femme. C'est là qu'elle impose vraiment du respect et que la beauté partage avec honneur les hommages rendus à la vertu. Une maison dont la maîtresse est absente est un corps sans âme qui bientôt tombe en corruption. Une femme hors de sa maison perd son plus grand lustre et dépouille de ses vrais ornements, et dépouillée de ses vrais ornements, elle se montre avec indécence. Si elle a un mari, que cherche-t-elle parmi les hommes? Si elle n'en a pas, comment s'expose-t-elle à rebuter par un maintien un peu modeste celui qui serait tenté de le devenir? Quoi qu'elle puisse faire, on sent qu'elle n'est pas à sa place en public. Sa beauté même, qui plaît sans intéresser, n'est qu'un tort de plus que le cœur lui reproche. Que cette impression nous vienne de la nature ou de l'éducation, elle est commune à tous les peuples du monde. Partout on considère les femmes à proportion de leur modestie. Partout on est convaincu qu'en négligeant les manières de leur sexe, elles en négligent les devoirs. Partout on voit qu'alors tournant en effronterie le mâle et ferme assurance de l'homme, elles s'avilissent par cette odieuse imitation et déshonorent à la fois leur sexe et le nôtre. Je sais qu'il règne en quelques pays des coutumes contraires, mais voyez aussi qu'elles meurent ou font être. Je ne voudrais pas d'autres exemples pour confirmer mes maximes. Appliquons aux mœurs des femmes ce que j'ai dit ci-devant de l'honneur qu'on leur porte. Chez tous les anciens peuples policés, elles vivaient très renfermées. Elles se montraient rarement en public. Jamais avec des hommes, elles ne se promenaient point avec eux. Elles n'avaient point meilleure place au spectacle et ne s'y mettaient point en montre. Il ne leur était pas même permis d'assister à tous, et l'on fait qu'il y avait peine de mort contre celles qui n'oseraient montrer aux Jeux olympiques. Dans la maison, elles avaient un appartement particulier où les hommes n'entraient point. Quand leur mari donnait à manger, elles se présentaient rarement à table. Les honnêtes femmes en sortaient avant la fin du repas, et les autres n'y paraissaient point au commencement. Il n'y a aucune assemblée commune pour les deux sexes. Ils ne passaient point la journée ensemble. Ce soin de ne pas se rassasier les uns des autres faisait qu'on s'en revoyait avec plus de plaisir. Il est sûr qu'en général, la paix domestique était mieux affermie et qu'il régnait plus d'union entre les époux qu'il n'en règne aujourd'hui. Tels étaient les usages des Perses, des Grecs, des Romains et même des Égyptiens, malgré les mauvaises plaisanteries d'Hérodote qui se réfutent d'elles-mêmes. Si quelquefois les femmes sortaient des bornes de cette modestie, le cri public montrait que c'était une exception. Que n'a-t-on pas dit de la liberté du sexe à Sparte? On peut comprendre aussi par la Lysistrata d'Aristophane Combien l'impudence des Athéniens était choquante aux yeux des Grecs. Et dans Rome déjà corrompue, avec quel scandale ne vit-on point encore les dames romaines se présenter au tribunal des triumvirs. Tout est changé. Depuis que des foules de barbares, traînant avec eux leurs femmes dans leurs années, eurent inondé l'Europe, la licence des camps, jointe à la froideur naturelle des climats septentrionaux, qui rend la réserve moins nécessaire, introduisit une autre manière de vivre que favoriseront les livres de chevalerie où les belles dames passaient leur vie à se faire enlever par des hommes en tout bien et en tout honneur. Comme ces livres étaient les écoles de galanterie du temps, les idées de liberté qu'ils inspirent s'introduisirent surtout dans les cours et les grandes villes où l'on se pique davantage de politesse. Par le progrès même de cette politesse, elle dut enfin dégénérer en grossièreté. C'est ainsi que la modestie naturelle au sexe peu à peu disparut et que les mœurs des vivandières se sont transmises aux femmes de qualité. Mais voulez-vous savoir combien ces usages contraires aux idées naturelles sont choquants pour qui n'en a pas l'habitude? Jugez-en par la surprise et l'embarras des étrangers et provinciaux à l'aspect de ces manières si nouvelles pour eux. Cet embarras fait l'éloge des femmes de leur pays, et il est à croire que celles qui le causent en seraient moins fières, si la source en était mieux connue, les moins qu'elles en imposent. C'est plutôt qu'elles rougissent, et que la pudeur, chassée par la femme de discours et de son maintien, se réfugie dans le cœur de l'homme. Revenons maintenant à nos comédiennes. Je demande comment un État, dont l'unique objet est de se montrer au public, et qui pisait de se montrer pour de l'argent, conviendrait à d'honnêtes femmes et pourrait compatir en elles avec la modestie et les bonnes mœurs. A-t-on besoin même de discuter sur les différences morales des sexes pour sentir combien il est difficile que celles qui se mettent à prix en représentation ne s'y mettent bientôt en personne et ne se laissent jamais tenter de satisfaire des désirs qu'elles prennent tant de soin d'exciter? Quoi, malgré 1000 timides précautions, une femme honnête et sage, exposée au moindre danger, a bien de la peine encore à se conserver un cœur à l'épreuve. Et ces jeunes personnes audacieuses, sans autre éducation qu'un système de coquetterie et des rôles amoureux, dans une parure très peu modeste, sans cesse entourées d'une jeunesse ardente et téméraire, au milieu des douces voix d'amour et du plaisir, résisteront à leur âge, à leur cœur, aux objets qui les environnent, aux discours qu'on leur tient, aux occasions toujours renaissantes et à l'état auquel elles sont d'avance à demi vendues. Il faudrait nous croire une simplicité d'enfant pour vouloir nous en imposer à ce point. Le vice a beau se cacher dans l'obscurité, son empreinte est sur les fronts coupables. L'audace d'une femme est le signe assuré de sa honte. C'est pour avoir trop à rougir qu'elle ne rougit plus. Et si, quelquefois, la pudeur survit à la chasteté, que doit-on penser de la chasteté quand la pudeur même est éteinte? Supposons, si l'on veut qu'il y ait eu quelques exceptions, supposons qu'il en soit jusqu'à 3 que l'on pourrait nommer. Je veux bien croire là-dessus que je n'en ai jamais ni vu ni ouï dire. Appellerons-nous un métier honnête celui qui fait d'une honnête femme un prodige et qui nous porte à mépriser celle qui l'exerce, à moins de compter sur un miracle continuel? L'immodestie tient si bien leur tal état et elle le sort si bien elle-même qu'il n'y en a pas une qui ne serait crue ridicule de feindre au moins de prendre pour elle les discours de sagesse et d'honneur qu'elle débite au public. De peur que ces maximes sévères ne fissent un progrès nuisible à son intérêt, l'actrice est toujours la première à parodier son rôle et à détruire son propre ouvrage. Elle quitte, en atteignant la coulisse, la morale du théâtre aussi bien que sa dignité. Et si on prend des leçons de vertu sur la scène, on les va bien vite oublier dans les foyers. Après ce que j'ai dit ci-devant, je n'ai pas besoin, je crois, d'expliquer encore comment le désordre des actrices entraîne celui des acteurs. surtout dans un métier qui les force à vivre entre eux dans la plus grande familiarité. Je n'ai pas besoin de montrer comment, d'un état déshonorant, naissent des sentiments déshonnêtes, ni comment les vices divisent ceux que l'intérêt commun devrait réunir. Je ne m'étendrai pas sur 1000 sujets de discorde et de querelle que la distribution des rôles, le partage de la recette, le choix des pièces, la jalousie des applaudissements doivent exciter sans cesse, principalement entre les actrices, sans parler des intrigues de galanterie. Il est plus inutile encore que j'expose les effets que l'association du luxe et de la misère, inévitable entre ces gens-là, doit naturellement produire. J'en ai déjà dit pour vous et pour les hommes raisonnables. Je n'en dirai jamais assez pour les gens prévenus qui ne veulent pas voir ce que la raison leur montre, mais seulement ce qui convient à leur passion ou à leurs préjugés. Si tout cela tient à la profession du comédien, que ferons-nous, monsieur, pour prévenir des effets inévitables? Pour moi, je ne vois qu'un seul moyen, c'est d'ôter la cause. Quand les maux de l'homme lui viennent de sa nature ou d'une manière de vivre qu'il ne peut changer, les médecins les préviennent-ils? Défendre au comédien d'être vicieux, c'est défendre à l'homme d'être malade. S'ensuit-il de là qu'il faille mépriser tous les comédiens? Il s'ensuit au contraire qu'un comédien qui a de la modestie, des mœurs, de l'honnêteté, est, comme vous l'avez très bien dit, doublement estimable, puisqu'il montre par là que l'amour de la vertu l'emporte en lui sur les passions de l'homme et sur l'ascendant de sa profession. Le seul tort qu'on lui peut imputer est de l'avoir embrassé. Mais trop souvent un écart de jeunesse décide du fort de la vie, et quand on se sent un vrai talent, qui peut résister à son attrait? Les grands acteurs portent avec eux leur excuse. Ce sont les mauvais qu'il faut mépriser. Si j'ai resté si longtemps dans les termes de la proposition générale, ce n'est pas que je n'eusse plus davantage encore à l'appliquer précisément à la ville de Genève. Mais la répugnance de mettre mes concitoyens sur la scène m'a fait différer autant que j'ai pu de parler de nous. Il y faut absolument venir à la fin, et je n'aurais rempli qu'imparfaitement ma tâche si je ne cherchais, sur notre situation particulière, ce qui résultera de l'établissement d'un théâtre dans notre ville, au cas que votre avis et vos raisons déterminent le gouvernement à l'y souffrir. Je me bornerai à des effets si sensibles qui ne puissent être contestés par personne qui connaisse un peu notre constitution. Genève est riche, il est vrai, mais quoi qu'on n'y voie point ces énormes disproportions de fortune qui appauvrissent tout un pays, oui, pour enrichir quelques habitants et sèment la misère autour de l'opulence, il est certain que, si quelques Genevois possèdent d'assez grands biens, plusieurs vivent dans une disette assez dure et que l'aisance du plus grand nombre vient d'un travail assidu, d'économie et de modération, plutôt que d'une richesse positive. Il y a bien des villes plus pauvres que la nôtre, où le bourgeois peut donner beaucoup plus ses plaisirs parce que le territoire qui le nourrit ne s'épuise pas et que son temps, n'étant d'aucun prix, il peut le perdre sans préjudice. Il n'en va pas ainsi parmi nous qui, sans terre pour subsister, n'avons tous que notre industrie. Le peuple genevois ne se soutient qu'à force de travail et n'a pas le nécessaire qu'autant qu'il se refuse tout superflu. C'est une des raisons de nos lois somptuaires. Il me semble que ce qui doit d'abord frapper tout étranger entrant dans Genève, c'est l'air de vie et d'activité qu'il y voit régner. Tout s'occupe, tout est mouvement, tout s'empresse à son travail et à ses affaires. Je ne crois pas que nulle autre aussi petite ville au monde offre un pareil spectacle. Visitez le quartier Saint-Gervais. Toute l'horlogerie de l'Europe y paraît rassemblée. Parcourez le Mollard et les rues basses. Un appareil de commerce en grande et monceaux de ballots, des tonneaux confusément jetés, une odeur d'Inde et de droguerie vous font imaginer un port de mer. Ou pas qui, aux eaux vives, Le bruit et l'aspect des fabriques d'indiennes et de toiles peintes semblent vous transporter à Zurich. La ville se multiplie en quelque sorte par les travaux qui s'y font, et j'ai vu des gens, sur ce premier coup d'œil, en estimant le peuple à 100 000 âmes. Les bras, l'emploi du temps, la vigilance, l'austère parcimonie, voilà les trésors du Genevois. Voilà avec quoi nous attendons un amusement de gens oisifs, qui nous ôtant à la fois le temps et l'argent, doublera réellement notre perte. Genève ne contient pas 24 000 âmes, vous en convenez. Je vois que Lyon, bien plus riche à proportion, et du moins 5 ou 6 fois plus peuplé, entretient exactement un théâtre, et que quand ce théâtre est un opéra, la ville n'y saurait suffire. Je vois que Paris, la capitale de la France, et le gouffre des richesses de ce grand royaume, en entretient 3 assez médiocrement, et un 4e en certains temps de l'année, permanent. Je vois que dans plus de 600 000 habitants, ce rendez-vous de l'opulence et de l'oisiveté fournit à peine journellement au spectacle 1 000 ou 1 200 spectateurs, tout compris. Dans le reste du royaume, je vois Bordeaux, Rouen, grand port de mer, je vois Lille, Strasbourg, grande ville de guerre, pleine d'officiers oisifs qui passent leur vie à attendre qu'il soit 12h et 20h. Avoir un théâtre de comédie, encore faut-il des taxes involontaires pour le soutenir. Mais combien d'autres villes, incomparablement plus grandes que la nôtre, combien de sièges de parlement et de cours souveraines ne peuvent entretenir une comédie à demeure? Pour juger si nous sommes en état de mieux faire, prenons un terme de comparaison bien connu, tel par exemple que la ville de Paris. Je dis donc que, si plus de 600 000 habitants ne fournissent journellement, et l'un dans l'autre au théâtre de Paris, que 1 200 spectateurs, moins de 24 000 habitants n'en fourniront certainement pas plus de 48 à Genève. Encore, faut-il détruire les gratis de ce monde et supposer qu'il n'y a pas proportionnellement moins de désœuvrés à Genève qu'à Paris, supposition qui me paraît insoutenable. Or, si les comédiens français, pensionnés du roi et propriétaires de leur théâtre, ont bien de la peine à se soutenir à Paris avec une assemblée de 300 spectateurs, par représentation, je demande comment les comédiens de Genève se soutiendront avec une assemblée de 48 spectateurs pour toute ressource. Vous me direz qu'on vit à meilleur compte à Genève qu'à Paris. Oui, mais les billets d'entrée coûteront aussi moins à proportion. Et puis, la dépense de la table n'est rien pour les comédiens. Ce sont les habits, c'est la parure qui leur coûte. Il faudra faire venir tout cela de Paris, où on dresse des ouvriers maladroits. C'est dans les lieux où toutes ces choses sont communes qu'on les fait à meilleur marché. Vous direz encore qu'on les assujettira à nos lois somptuaires. Mais c'est en vain qu'on voudrait porter la réforme sur le théâtre. Jamais Cléopâtre, Xerxès ne goûteront notre simplicité. L'état des comédiens étant de paraître, c'est leur ôter le goût de leur métier, de les empêcher. Et je doute que jamais bon acteur consente à se faire quoi à Caire. Enfin, l'on peut m'objecter que la troupe de Genève, étant moins bien nombreuse que celle de Paris, pourra subsister à bien moindre frais. D'accord. Mais cette différence sera-t-elle en raison de celle de 48 à 300? Ajoutez qu'une troupe plus nombreuse a aussi l'avantage de pouvoir jouer plus souvent, au lieu que dans une petite troupe, où les doubles manquent, tous ne seront joués tous les jours. La maladie, l'absence d'un seul comédien, fait manquer une représentation, et c'est autant de perdu pour la recette. Le Genevois aime excessivement la campagne. On en peut juger par la quantité de maisons répandues autour de la ville. L'attrait de la chasse et la beauce des environs entretiennent ce goût salutaire. Les portes, fermées avant la nuit, autant la liberté de la promenade au dehors, et les maisons de campagne étant si près, fort peu de gens aisés couchent en ville durant l'été. Chacun, ayant passé la journée à ses affaires, part le soir à porte fermante et va dans sa petite retraite respirer l'air le plus pur et jouir du plus charmant paysage qui soit sous le ciel. Il y a même beaucoup de citoyens et bourgeois qui y résident toute l'année et n'ont point d'habitation dans Genève. Tout cela est autant de perdu pour la comédie, et pendant toute la belle saison, il ne restera presque pour l'entretenir que des gens qui n'y vont jamais à Paris, c'est tout autre chose. On allie fort bien la comédie avec la campagne. Tout l'été, l'on ne voit à l'heure où finissent les spectacles que carrosses sortir des portes. Quant aux gens qui couchent en ville, la liberté d'en sortir à toute heure les tente moins que les incommodités qui l'accompagnent et les rebutent. On s'ennuie sitôt des promenades publiques. Il faut aller chercher si loin la campagne. L'air en est si empesté d'immondices et la vue si peu attrayante qu'on est mieux s'enfermer au spectacle. Voilà donc encore une différence au désavantage de nos comédiens et une moitié de l'année perdue pour eux. Pensez-vous, monsieur, qu'ils trouveront aisément sur le reste à remplir un si grand vide? Pour moi, je ne vois aucun autre remède à cela que de changer l'heure où l'on ferme les portes, d'immoler notre sûreté à nos plaisirs et de laisser une place forte ouverte pendant la nuit, au milieu de trois puissances dont la plus éloignée n'a pas de milieu à faire pour arriver à nos glacis. Ce n'est pas tout. Il est impossible qu'un établissement si contraire à nos anciennes maximes soit généralement applaudi. Combien de généreux citoyens verront avec indignation ce monument du luxe et de la mollesse s'élever sur les ruines de notre antique simplicité et menacer de loi la liberté publique? Pensez-vous qu'ils iront autoriser cette innovation de leur presse après avoir hautement approuvé? Soyez sûrs que plusieurs vont sans scrupule au spectacle à Paris, qui n'y mettront jamais les pieds à Genève, parce que le bien de la patrie leur est plus cher que leur abusement. Où sera l'imprudente mère qui osera mener sa fille à cette dangereuse école, et combien de femmes respectables croiraient se déshonorer en y allant elles-mêmes? Si quelques personnes s'abstiennent à Paris d'aller au spectacle, c'est uniquement par un principe de religion qui sûrement ne sera pas moins fort parmi nous, et nous aurons de plus les motifs de mœurs, de vertu, de patriotisme qui retiendront encore ceux-là que la religion ne retiendrait pas. J'ai fait voir qu'il est absolument impossible qu'un théâtre de Genève